Le cours que j'ai à vous faire aujourd'hui est, pour l'étude de la morale chrétienne, la suite directe du cours de la dernière fois. Comme je vous l'avais annoncé, c'est un seul cours en deux séances, parce qu'il est trop long pour faire en une fois. En morale naturelle, nous avons défini en seconde année l'acte moralement bon et l'acte moralement mauvais. En morale surnaturelle ou chrétienne, il va falloir définir l'acte surnaturellement bon, par lequel, parce qu'il est surnaturellement bon, nous méritons la vie éternelle, que nous ne serions bien sûr pas capables de mériter par nous-mêmes, mais comme il s'agit d'un acte surnaturel qui nous est donné par la grâce, cet acte peut être méritoire de la vie éternelle. Eh bien, il résulte de tout ce que je vous ai dit dans la seconde partie du dernier cours que l'acte surnaturellement bon, c'est l'acte motivé et inspiré par la charité. C'est-à-dire l'acte dans lequel le motif décisif, le motif pour lequel on se décide, le motif auquel la liberté donne sa préférence et qui emporte la décision, c'est l'amour de Dieu pour lui-même. Un tel acte nous oriente donc vers Dieu voulu et aimé par-dessus tout, et il est par là méritoire de la vie éternelle. Un tel acte, parce qu'il procède de la charité, et comme la charité formellement divine, essentiellement surnaturelle, il est l'œuvre de la grâce en nous, et par là, il peut être véritablement méritoire de la vie éternelle. Ce que je viens de vous dire là, entraîne une conséquence très importante. C'est que, comme je l'ai déjà marqué la dernière fois, le christianisme est quelque chose de prodigieusement simple. Il ne comporte pas des actions géniales, héroïques, extraordinaires, admirables aux yeux des hommes, qui mettraient en jeu de hautes aptitudes naturelles. Mais il est réalisable par les plus banales actions de tous les instants, dans la plus ordinaire des vies, du moment que tout est fait par amour de Dieu et l'œuvre de l'amour de Dieu. Et ceci est accessible même à ceux qui sont les plus pauvres, les plus démunis en aptitude naturelle. Ça pourrait même être accessible à des êtres tarés, à des déchets humains, s'il subsiste en eux le minimum de liberté pour adhérer à Dieu par amour, et faire par amour de Dieu les très pauvres choses qu'ils sont capables de faire. Et ceci marque une différence capitale du christianisme avec les autres religions. Car dans les autres religions, on réclame tout un ensemble de techniques, de méthodes, une longue initiation, des choses qui ne sont finalement accessibles qu'à une élite, qui sont le privilège d'une élite. Tandis que le christianisme, lui, est accessible aux plus petits, aux plus pauvres, aux plus humbles, et je dirais même que ceux qui sont les plus démunis d'aptitudes naturelles seront peut-être par là portés davantage à être vis-à-vis de Dieu comme de purs mendiants pour tout recevoir de sa grâce. En revanche, l'action la plus géniale, la plus héroïque, la plus extraordinaire, la plus admirable aux yeux des hommes, mettant en jeu les plus hautes aptitudes naturelles, si elle n'est pas par amour de Dieu, elle ne vaut rien, absolument rien, sur le plan surnaturel ou chrétien. Elle garde sa valeur naturelle, mais elle n'a aucune valeur surnaturelle. Ceci est le grand enseignement de saint Paul dans un texte fondamental qu'il faut sans cesse relire et méditer, et qui est le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, où saint Paul nous dit « Quand même je donnerai tout ce que je possède aux pauvres ». Et remarquez quelle leçon pour tant de nos contemporains qui confondent la charité avec la bienfaisance. Et donner tout ce qu'on possède aux pauvres, c'est sûrement de la bienfaisance. Eh bien, dit saint Paul, « Quand même je donnerai tout ce que je possède aux pauvres, si ce n'est pas par charité, c'est-à-dire par amour de Dieu pour lui-même, si c'est pour un autre motif, cela ne vaut rien sur le plan chrétien. »